Bonjour, bienvenue sur CNews cet après-midi. Dans un instant, je vous présente mes invités, les thèmes que nous allons aborder dans 90 Minutes Info. Ce sera juste après la Minute Info avec Adrien Spiteri.
Accord signé entre les biologistes et la sécurité sociale. Les laboratoires étaient en grève depuis hier. Ils protestaient contre une disposition du projet de loi de financement 2023. Un compromis a finalement été trouvé. Il prévoit une baisse de budget de 250 millions d'euros. Le syndicat des biologistes appelle à mettre fin à la grève dès demain. Près de 110 tonnes de cocaïne saisies à Anvers en 2022, annonce des douanes belges ce mardi. Il s'agit d'un nouveau record. C'est la première fois que la barre des 100 tonnes est dépassée. Le port d'Anvers est la première porte d'entrée en Europe de cette drogue produite en Amérique latine. Et puis les 8 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées dans le monde. Toutes dépassent de plus de 1 degré les températures pré-industrielles. Annonce du programme européen sur le changement climatique Copernicus. En tête du classement, l'année 2016, l'année 2022 se classe au 5e rang.
Merci beaucoup Adrien et à tout à l'heure. Ces jours sont-ils comptés? Le cas Noël Le Graët prend désormais une ampleur nationale. Il est entendu cet après-midi par le comité exécutif de la FFF. Écoutez.
Dans son communiqué, il a ses propos. Il dit « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée. » Je ne suis pas sûre que ces mots soient tout à fait rassurants. En ce qui me concerne, je les trouve même un petit peu inquiétants.
C'est la mère des réformes la plus contestée aussi. Les syndicats sont déjà prêts à battre le pavé après la présentation du texte sur la réforme des retraites par Elisabeth Borne dans l'hémicycle. Les oppositions, elles, fourbissent leurs armes. Les LR seront sans doute les faiseurs de roi de ce texte. Et du côté du RN, on parle d'une réforme qui est injuste sur le plan social. Écoutez.
À travers cette réforme, Emmanuel Macron entend mener une véritable guerre sociale au peuple français, déjà fragilisé par les difficultés et les crises du moment. En plus d'être socialement injuste, cette réforme est bâtie sur un mensonge, celui d'un système de retraite menacé de faillite.
Enfin, ses confidences sur sa royale famille étaient très attendues. Harry se livre avec force détails sur les dysfonctionnements de la couronne, sur les clashs répétés avec son frère également, sorte de psychothérapie couchée sur le papier.
Revenir en Grande-Bretagne dans la famille royale, je ne pense pas que ce soit possible un jour. Vous savez, même s'il y avait un accord ou un arrangement entre ma famille et moi, il y aura toujours une tierce partie qui ferait tout pour rendre mon retour impossible. Pas pour nous empêcher de revenir, mais pour rendre ce retour invivable. Et c'est vraiment triste parce que ça brise la relation avec ma famille.
Et voilà le programme du jour. Je vous présente mes invités sans plus tarder. Bonjour Ludovine de la Recherche, merci d'être là.
Bonjour Nelly.
Je rappelle, s'il fallait encore le répéter, que vous êtes présidente de la Manif pour tous. Benjamin Morel, qu'on retrouve avec plaisir.
Bonjour.
Ça faisait un petit moment que je vous ai
parlé. C'est vrai, c'est toujours avec grand plaisir.
Merci, plaisir partagé. Et je rappelle au passage que vous êtes maître de conférence en droit public. Jean Messia, président de l'Institut Apollon. Bonjour, merci d'être là, récurrent aussi en notre compagnie. Et puis on accueille avec grand plaisir Saïd El Abadi, journaliste sport à CNews.fr. Saïd, on vous a demandé de venir parce que le premier thème, évidemment, va vous concerner au premier chef. Vous allez nous être précieux. C'est devenu, il faut l'appeler ainsi, une affaire d'État, une sorte d'affaire d'État quand même. Noël Le Graët qui est franchement fragilisé maintenant à la tête de la Fédé, théoriquement en place, vous le savez, jusqu'à 2024. La question de son maintien est là. Alors, il est sous le coup d'une enquête pour harcèlement, critiqué pour d'autres dérapages comme du racisme, de l'homophobie, et puis évidemment l'affaire Zidane, est-ce que c'est la goutte d'eau de trop. En tout cas, le comité exécutif se réunit cet après-midi, ça c'était prévu. Kinson, vous êtes sur place, il faut le préciser, cette réunion elle était prévue depuis des semaines, précisément sur cette affaire de harcèlement, et il est entendu à ce sujet. Alors, on a un petit problème de son. Alors, on va retourner vers elle dans le temps de régler ce problème de son. Je vous disais que vous alliez être précieux. C'est vous qui allez nous faire le papier. Non, mais voilà, il y a plusieurs volets, en fait, dans ce cas Noël Le Graët. Là, on s'intéresse à ce volet harcèlement, mais il y aura peut-être d'autres épisodes. Hein. C'est une sorte de feuilleton, maintenant.
Il y a un véritable dossier, et c'est vrai que Noël Le Graët n'a pas choisi le meilleur moment pour s'exprimer sur Zinedine Zidane. Sa sortie, elle n'était pas vraiment bien située dans le temps, puisque donc il y a cette réunion, un audit qui a lieu, c'est le COMEX qui a organisé ça. C'était surtout la ministre des Sports qui avait décidé en septembre, après des plaintes pour harcèlement sexuel de la part d'anciennes collaboratrices, oui. On a eu des témoignages également aujourd'hui qui sont sortis, la ministre des Sports voulait mettre ça en place, ça a été mis en place. Donc c'est aujourd'hui, il y aura un suivi jusqu'à la fin du mois de janvier et jusqu'à mi-février, normalement on aura les conclusions globales de ça. Mais avant ça, en même temps... Il a été accusé de racisme, entre guillemets. Il a dit, il avait indiqué qu'il n'y avait pas de racisme dans le football. Kylian Mbappé, en premier lieu, l'avait critiqué sur Twitter.
Il avait déjà un peu vertement
retiré. C'était déjà une première salve. Ouais. Il avait également parlé de l'homophobie. On avait arrêté trop de matchs dans certains stades à cause de cris homophobes, notamment en Ligue 1. Et dernièrement, donc, cette sortie sur Zinedine Zidane. Alors... Certes, c'est peut-être pas la chose la plus grave par rapport à tout ce que je viens d'évoquer, mais c'est peut-être la petite goutte d'eau qui a fait déborder. Et voilà.
En tout cas, on sent bien que la ministre des Sports est en mission commandée maintenant sur ce dossier. On va retrouver Kinson qui a rétabli la liaison sonore. Kin, c'est donc cette affaire de harcèlement qui est traitée cet après-midi.
Oui, Annelies, ce sont les aléas du direct. Et justement, Noël Le Graët vient tout juste de passer devant nous. On l'a vu au loin. Alors, vous en doutez, il ne s'est pas exprimé devant la presse. Et vous l'avez dit, Nelly, plusieurs sujets seront abordés lors de cette audition prévue depuis plusieurs semaines. Noël Le Graët sera interrogé notamment sur les dysfonctionnements au sein même de l'instance, mais aussi pour des faits présumés d'harcèlement sexuel. Et clairement, l'étau se resserre sur le président de la Fédération française de football. Après ces déclarations, notamment, qui ont fait polémique sur Zidane. Le timing est clairement néfaste pour Noël Le Graët. Et aujourd'hui, la ministre des Sports en a rajouté une couche sur Twitter. Elle a salué le courage de Sonia Swede qui dénonce des comportements déplacés du président actuel. La ministre a tweeté, je cite, « Notre audit en sera digne » car effectivement, dans le cadre de l'audition initiée par le ministère des Sports, trois enquêteurs vont interroger pendant plusieurs heures Noël Le Graët et Florence Ardoin. L'entretien se fera de manière séparée. Les dirigeants devront répondre aux accusations, aux éléments réunis ces derniers mois par les enquêteurs. Et c'est seulement à l'issue que les 14 membres du COMEX prendront une décision. Ils sont les seuls habités à prendre cette décision, c'est-à-dire à remettre en cause le mandat du président actuel et le pousser vers la démission. Mais le rapport provisoire est prévu pour la fin du mois, Nelly.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Kinson en direct de la Fédération française de foot à Paris. Allez, réaction des invités, puis on reviendra un petit peu dans le détail avec vous, bien sûr, Saïd. Jean Messia, on se dit que ça va être difficilement tenable quand même comme position pour lui. Les taux, si je puis dire, se resserrent quand même.
Oui, alors je parle sous le contrôle du spécialiste des sports. Je crois que rien, en fait, ne peut obliger Noël Le Graët à quitter son poste avant 2024, sauf éventuellement des affaires judiciaires ou des condamnations. Alors moi j'entends, si vous voulez, qu'il est accusé de racisme, d'homophobie. Bon, il faut quand même rappeler que ces accusations, enfin le racisme et l'homophobie, ce ne sont pas des opinions, ce sont des délits. Donc soit il a été condamné pour ça par une juridiction suite à une plainte qui a été déposée contre lui, et à ce moment-là, effectivement, cet individu peut être qualifié de raciste ou d'homophobe, soit il s'agit d'accusations lancées par les médias ou par un certain nombre de faiseurs d'opinion, et dans ce cas-là, bah, elles valent ce qu'elles valent, si vous voulez. Le fait qu'il...
Non, mais sur le plan symbolique, homme comme ça puisse avoir des propos un peu troubles, ça, déjà, ça, en soi, c'est...
Pour l'instant, écoutez...
Pour un sport aussi populaire que le foot...
Tant qu'il n'a pas été condamné, ça reste, excusez-moi, minoré ou même nié un événement ne fait pas de vous un partisan de cet événement. Si je nie, par exemple, l'ampleur de la délinquance ou l'ampleur de la criminalité ou que j'en minore ou que je la minore, ça ne fait pas de moi un délinquant et un criminel. Donc, vous voyez, c'est très, beaucoup plus compliqué que ça. Alors, évidemment, sur les propos de Zidane, moi, je ne défends pas parce que j'aime beaucoup Zinedine Zidane par ailleurs. Mais si vous voulez, le problème, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de rancune de la part de Noël Le Graët par rapport
à cette affaire Zidane? Vous ne vous dites pas qu'il devrait partir quand même? On n'insulte pas.
Je pense que le propos a été sec et maladroit. Mais encore une fois, je termine par ça. La question, c'est est-ce que Noël Le Graët n'a pas la main lourde parce qu'il a la rancœur aiguë? On se souvient notamment que Zinedine Zidane n'a pas été soutenir l'équipe de France au moment de la finale, qu'il a un peu intrigué avec Benzema, etc. Donc, est-ce que Noël Le Graët ne lui a tenu un peu rigueur de cela et que ce qui explique sa sortie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le propos est maladroit, évidemment, par rapport à une icône pareille.
Saïd, est-ce qu'il y a des questions en interne qui sont un peu plus complexes que ce qu'on veut bien laisser penser? Parce que tout ça, c'est vrai, il y a une forme d'opacité quand même autour de toutes ces instances et des jeux de pouvoir qui se nouent.
Il y a Au sein de la fédération est divisée. De toute façon, ça, personne ne l'apprendra, c'est sûr et certain. Ce qu'il faut savoir, c'est que oui, Noël Le Graët, à part démissionner, il n'est pas obligé de quitter son mandat, ça c'est sûr. Il est en mandat jusqu'à 2024. À part s'il y a vraiment une assemblée fédérale qui est organisée et qui a un vote de défiance, là, à partir de là, et que...
On en est loin, donc.
On en est loin. Ça peut s'organiser. On peut avoir un comité exceptionnel qui peut avoir lieu dès demain ou autre. Enfin, ça peut avoir lieu. C'est d'ailleurs on l'entend là dernièrement.
C'est un peu dans les tuyaux quand même.
C'est un peu dans les tuyaux, donc c'est possible. Mais au-delà de ça, oui, au sein de la Fédération française de football, il y a des clans, il y en a depuis toujours. Le fait que Noël Le Graët soit en poste depuis 2011, ça fait également parler, ça fait débat.
Son âge aussi.
Son âge. Le fait d'avoir ce week-end aussi prolongé Didier Deschamps, non pas jusqu'à 2024, mais surtout jusqu'à 2026, lui qui ne sera plus en poste au sein de la Fédération française de football, ça fait pas mal de débats en effet.
Et puis on parlera aussi de l'aspect choix du futur. Président en accord avec le sélectionneur. Enfin, ça pose un peu question. Allez, on va étendre un petit peu le débat aux autres invités. Benjamin Morel, je vais vous faire réagir aussi à ceux qui, semble-t-il, ont choisi leur camp, c'est-à-dire d'anciens joueurs de l'équipe de France. Regardez Laurent Blanc, la réaction de Laurent Blanc, je crois, c'était sur Twitter. Ça nous permet d'étayer un peu le débat. Alors, il dit, à propos de lui, alors il s'est excusé, certes, ça c'était hier, c'est venu un tout petit peu tardivement, mais c'est très facile de s'excuser, dit-il, cela dure 2 secondes. Quand on tient des propos, les propos restent. Il n'y a pas totalement tort. Deuxième réaction, c'est Franck Leboeuf. Alors là, on a carrément le son. Moi, j'aime bien la manière dont il ramasse un peu le propos, son analyse. Vous me direz ce que vous en pensez.
Je sais très bien que Zizou ne veut pas répondre aux propos de M. Le Graët. Voilà, c'est tout à son honneur. Ça montre que l'homme est au-dessus de ça. Je pense qu'il sait exactement à quoi s'en tenir. Donc, comme nous tous, je crois qu'on connaît tous le personnage. On s'attend à rien de bien de la part de cette personne par rapport à France 98. Il y a beaucoup de sujets où il est passé au-dessus, où il y a une forme dictatoriale de gérer les choses qui me dérange un petit peu. Et donc, voilà, je trouve qu'il a fait son temps et il est temps de rafraîchir un petit peu. Ouais.
Voilà. Est-ce que c'est pas la fin d'un système ? Des instances qui sont peut-être trop cloisonnées, trop toutes puissantes. Il y a une forme d'impunité quand même.
C'est probablement la fin d'un système, mais moi je trouve cette affaire en réalité totalement lunaire. Enfin, on a quand même quelqu'un, on a ouvert une audite sur le harcèlement sexuel dans le football, et tout d'un coup, il a commis un crime de lèse-majesté vis-à-vis de Zinedine Zidane. Et là, tout d'un coup, l'ensemble de la sphère médiatique se réveille en disant « cet homme doit démissionner ». Mais attendez, on a une audite sur le harcèlement sexuel, il y a eu des scandales, je parle sous votre contrôle, dans le patinage il y a quelques années, parce que le ministère n'agissait pas. Il faut voir que les fédérations agissent en délégation de services publics, c'est-à-dire que la police du terrain, l'organisation des matchs, elles le font en délégation du ministère. Et donc il y a un droit de regard du ministère, évidemment, sur l'organisation de ces fédérations, c'est normal. Que le ministère se réveille parce que tout d'un coup, on a dit du mal de Zinedine Zidane, j'ai rien contre Zinedine Zidane, mais jusqu'à preuve du contraire, on a le droit d'en dire du mal. Et que tout d'un
coup... vous expliquez tout à l'heure qu'il y avait un contentieux précédent déjà.
Il y a un contentieux précédent, mais les contentieux individuels, entre guillemets, encore une fois, on est face à une fédération sportive. Cette fédération sportive, elle a des missions de service public, donc elle doit bien fonctionner, elle doit respecter la loi. Qu'il y ait des tensions internes, qu'on dise du mal de l'un ou de l'autre, mais je dirais du point de vue de l'intérêt général, je ne suis pas fan de football, on s'en fiche. En revanche, il y a des dysfonctionnements au sein de la Fédération française de football. Visiblement, M. Le Graët y est peut-être pour quelque chose. On verra bien ce à quoi conclut l'enquête.
J'entends votre argument. Problème, les faits, uniquement les faits. Ludovine de la Rochère, votre regard, parce qu'on entend vraiment des avis assez divergents, en tout cas des analyses divergentes sur la question.
Oui, alors, quand on entend aujourd'hui un certain nombre de propos tenus par M. Le Graët, on a l'impression d'un espèce de continuum et de répétition de gestes déplacés et de propos déplacés. Alors les uns et les autres étant de nature très différente. Moi j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être des faits à reprendre les uns après les autres qui ne sont pas du tout de même nature, des faits de harcèlement sexuel. Là il y a une enquête, il y aura donc éventuellement des plaintes. Là c'est à la justice d'en décider. Après il a déclaré que les JO 2024, il n'en avait que faire. Je pense que ça n'a pas été apprécié au ministère. Ensuite, il y a la question du racisme et de l'homophobie dans les stades. Il faisait une différenciation entre les deux. Il y a un arrière-plan idéologique qui est quand même, on n'est pas naïf, enfin il ne faut pas être naïf, une espèce de pression politique pour tout politiser, le sport compris. Et voir avec une propagande woke très claire, bien sûr que ce monsieur, sauf erreur de ma part, n'a jamais tenu de propos en tant que tel, je l'espère, homophobe ou raciste. Après, il a peut-être tenté, maladroitement, c'est possible, de lutter contre la politisation du monde du sport. Là-dessus, il y a une vraie pression. Donc je pense qu'on ne peut pas tout mélanger. et que là où il doit y avoir enquête, il y aura enquête et que nous saurons ce qu'il en est factuellement et objectivement.
Alors j'aimerais qu'on finisse sur, parce qu'on n'a pas encore évoqué, Didier Deschamps, et je vais profiter donc que vous soyez encore avec nous, Saïd. Il a dit par ailleurs, Franck, je reviens à ce que disait Franck Leboeuf tout à l'heure, dans la même interview, je crois qu'il dit à un moment, ça met Deschamps dans l'embarras par effet ricochet. Parce qu'il est un peu gêné aux entournures. C'est voici l'homme qui l'intronise et qui lui dit « reste » et qui est en son mandat. Et en même temps, il ne peut pas prendre ouvertement la parole pour le critiquer. Ça le met dans une position délicate.
C'est un peu un duo, Noël Le Graët et Didier Deschamps, forcément. Et ça a bien fonctionné, parce que depuis que Didier Deschamps est arrivé, c'est-à-dire en 2012 après Laurent Blanc, Didier Deschamps a été en finale de l'Euro, il a gagné la Coupe du Monde en 2018, il a été encore en finale en 2022, il a gagné la National League en 2021. Donc Didier Deschamps, déjà de fait, était logiquement renouvelable. On ne pouvait pas dire à Didier Deschamps, tu ne restes pas, sauf si lui comptait réellement partir. Ouais, ouais. Il comptait, avant la Coupe du Monde, il s'était dit, s'était posé la question. Mais avec le résultat à la finale, forcément, il s'est dit, bah, autant rester, autant que j'essaie de gagner cet euro qui me manque. Et lui pensait plus à rester jusqu'à l'euro 2024. Mais Noël Le Graët a décidé, lui, de le prolonger jusqu'en 2026. C'est ce qui a fait grincer des dents ce week-end, parce qu'en 2026, à partir même de 2024, Noël Le Graët ne sera plus là. Donc forcément, dès que Noël Le Graët ne sera plus là, la question sera, mais Didier Deschamps, pourquoi il reste? Pourquoi
on peut toujours avoir un autre avis.
Voilà,
sur la question.
Exactement. Donc, évidemment, ça fera débat, mais voilà.
Tout dernier mot.
Si vous voulez, je suis très étonné qu'on appelle effectivement la démission de Noël Le Graët pour ses propos tenus sur Zidane, mais vous avez détaillé l'historique, il a été accusé de racisme, a été accusé d'homophobie. Je n'ai pas entendu à l'occasion de ces accusations, qui me semblent être quand même des accusations graves, enfin, le bruit médiatique n'a pas appelé à sa démission, ou les agressions sexuelles. Les agressions sexuelles, personne, au moment où ces agressions sexuelles ont été révélées, j'ai pas entendu beaucoup de personnes appeler à sa démission. Donc c'est quand même extraordinaire que pour des accusations aussi graves, ça a fait du bruit, mais personne n'a appelé à la sortie de Noël Le Graët. Et pour les accusations contre Zidane, là, la terre entière se lève pour appeler à le foutre dehors. C'est quand même exagéré.
Je crois qu'il y a un côté cumul, quoi, maintenant.
Oui, Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu une manipulation avec un arrière-plan que nous n'avons pas de bataille au sein de la fédération? Et puis là, un certain nombre de personnes, pour différentes raisons qui ne sont peut-être pas celles de l'intérêt général, qui estiment qu'il a fait s'entendre. De fait, il est là depuis longtemps et qui essayent de le faire sortir. Et donc, on mitraille et on nous rappelle gentiment tout ce qui a pu être fait ou dit. Le monde du football n'est quand même pas particulièrement toujours feutré. Voilà, c'est ça.
Pas les bisounours dans les...
Merci beaucoup. Allez, on va changer de thème. Merci beaucoup, Saïd, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes à la rédaction CNews.fr, pas très loin de nous. Donc, à très bientôt. On vous ressollicite parce que j'imagine qu'on va avoir la réponse très vite sur cette affaire Le Graët. À bientôt. On va parler à présent de cet enlèvement qui a eu lieu, c'est assez hallucinant, en pleine rue à Villeparisis, ça se trouve en Seine-et-Marne. Ça a glacé tout le monde. Ça dure pendant plusieurs minutes. La vidéo, vous avez sans doute vu des extraits d'ores et déjà, mais on va vous montrer largement cette scène assez hallucinante. Au vu d'ailleurs et au su de riverains, malgré l'heure matinale. Vous êtes sur place, Régine Delfour. Qu'est-ce que ça a provoqué comme réaction chez les gens que vous avez rencontrés?
Oui, bonjour Nelly. Bah écoutez, c'était un peu la surprise. Hein. Tout le monde est choqué par ce qui s'est passé dimanche. Il est aux alentours de 9h, un petit peu avant 9h, avant que la messe débute, puisque nous sommes place de l'église. Et ça s'est passé juste derrière moi. Vous allez voir sur la vidéo tout à l'heure que donc 4 individus forcent un homme de rentrer dans un coffre. Il le roue de coups. Alors des voisins ont alerté les policiers en composant le 17. Et nous avons pu parler avec plusieurs riverains. Certains nous disent que c'est plutôt calme, mais on ne les sent pas très sereins. Et puis nous avons rencontré une riveraine qui, elle, nous dit avoir peur pour ses enfants. Elle parle de trafic de drogue, elle parle d'avoir déjà découvert de la drogue cachée dans les roues, dans la roue de sa voiture, et puis aussi dans une plaque d'égout. Alors c'est un petit peu, ça peut étrange ici, hein, le sentiment. Nous avons aussi rencontré le maire de Villeparisis qui, lui, est extrêmement choqué, mais nous dit qu'il faut faire attention avant de déclarer que cet enlèvement est une conséquence d'un trafic de drogue qui aurait un règlement de compte, qui aurait mal tourné, puisque ce qui est assez étrange, c'est que pour l'instant, aucun signalement de disparition pour ce jeune homme n'a été effectué. Donc on ne sait pas qui est ce jeune homme, on ne sait pas d'où il vient. Les habitants ici nous disent qu'ils ne le connaissent pas, puisqu'ils ont vu évidemment cette vidéo, et qu'ils ne connaissent pas non plus les 4 hommes. Alors pour le moment, une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration, elle a été confiée à la police judiciaire de Meaux.
Merci beaucoup Régine et merci à Sacha Robin qui vous accompagne sur place. Alors évidemment, c'est difficile de parler de cette méthode qu'évoquait Régine, qu'ont parfois les dealers, parce qu'on ne sait pas si c'est un trafic de drogue, mais ouais. Moi j'aimerais qu'on se concentre surtout sur ce que ça peut provoquer dans une petite bourgade comme ça. Là on est au centre-ville, hein, on n'est même pas dans un quartier, dans une cité. Enfin vraiment, moi je verrais ça devant moi, je serais un peu
désemparé. C'est-à-dire que le problème, si vous voulez, c'est que bon, là, manifestement, on n'a pas affaire à des professionnels. Hein. Puisque quand on voit comment ils s'y prennent, voilà. Donc autrefois, effectivement, ce genre d'action était limité à un certain milieu du grand banditisme, des professionnels du crime organisé qui pratiquaient ce genre d'opération maintes fois et qui avaient acquis une certaine expertise en la matière. Ils ne faisaient pas ça dans de telles conditions, au vu et au su de tous, avec une voiture dont la plaque est identifiée. À 5, ils mettent quand même un peu de temps, beaucoup de temps même pour mettre la personne dans la voiture. Et surtout, l'espèce de comment dirais-je, la décomplexion totale par rapport à cette opération. C'est-à-dire, ils sont tranquilles, quoi. Oui. Il y a des dizaines de fenêtres qui donnent sur la rue. Ils n'en ont rien à faire s'ils peuvent être vus, identifiés en plein jour, etc. D'autant plus qu'il s'agit d'une bourgade où ce genre d'affaires n'est quand même pas très courant. Donc on est vraiment là, on n'est plus dans le sentiment d'insécurité. C'est au contraire un sentiment de toute puissance de la part des criminels qui se croient tout permis parce qu'ils ne sont jamais sanctionnés.
Ludovine de la Rochère, en un mot, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose. Ils n'ont pas été arrêtés, il faut le préciser, ces individus.
Écoutez, en tout cas, je pense que Régine a très bien résumé l'ambiance dans sa description. Et évidemment, les habitants ne sachant rien... ne sachant pas de quoi il retourne, de qui on parle et quelle est l'origine de cette affaire, on imagine bien le sentiment, enfin pas le sentiment d'ailleurs, mais l'impression nette et bien réelle de malaise, d'insécurité, de... moi j'espère que très rapidement on aura les tenants et aboutissants. La plaque d'immatriculation de la voiture sera sans doute, doit être le point de départ d'une recherche.
Ça reflète un nouveau degré dans l'insécurité en plein jour, assumé.
Après, je rejoins Jean Messia sur beaucoup de points. C'est-à-dire que là, on a quand même un amateurisme assez cras. Donc, on peut penser, entre guillemets, que rapidement, on retrouve les auteurs et qu'ils soient interpellés. En tout cas, on peut l'espérer. De l'autre côté, ça témoigne également d'une forme d'extension de la violence. On l'a dit assez souvent, mais aujourd'hui, grosso modo, cette violence n'est plus cantonnée à quelques quartiers. Évidemment, elle rejaillit sur les centres des grandes villes, mais elle rejaillit également en zone rurale, où en règle générale, eh bien, vous avez une capacité d'intervention qui existe, mais qui n'est pas habituée à ce type de fait, et qui donc, ce faisant, peut donner lieu à une forme d'opportunisme.
Un sentiment d'enlèvement.
C'est l'heure de la chronique écho d'Éric Dorine-Maten, il est déjà là.
Vivez un moment d'émotion devant votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
Bonjour Eric. Alors on entame un cycle, on ne va pas l'apprendre, le cycle de la réforme des retraites. Et vous vous êtes penché sur les autres solutions de financement. Les syndicats avaient d'autres propositions que celle de décaler l'âge de départ.
Oui, parce que le gouvernement a fait un choix, c'est de toucher à l'âge de départ à la retraite, alors qu'on aurait pu augmenter les cotisations, baisser les pensions, mais ça, il n'en était pas question. Alors du coup, c'est un front syndical uni. C'est rare que tous les syndicats souhaitent se mobiliser. D'ailleurs, ce soir, ils vont se réunir à la Bourse du Travail à Paris pour décider d'une mobilisation, d'une action. On a rarement vu ça à ce point-là. Alors, il y a trois points, en fin de compte, qui auraient été possibles. La CFDT a mis en avant l'emploi, c'est-à-dire que la CFDT a dit, Laurent Berger, il suffirait qu'il y ait plus de seniors au travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, il y a très peu de seniors. Il y a 56% seulement des 55-64 ans qui sont actifs. 56%. Et Laurent Berger a dit 10 points de plus, c'est-à-dire passer à 66%, on réglerait tous les problèmes. L'ennui, c'est que souvent les patrons se débarrassent, entre guillemets, pardon.
Et les deux autres options, alors.
Deuxième option, CFTC, ce sont les travailleurs chrétiens. Qu'est-ce qu'ils disent? On augmente un peu les cotisations, seulement 2-3 euros par salarié et 4 à 5 pour les patrons sur les salaires.
Et là, le compte y est.
Et là, on a vérifié, non, parce qu'il y a quand même 10 milliards à récupérer chaque année, ce n'est pas possible. Il y a eu une étude qui a été faite, c'était 14 euros sur un SMIC, mais c'est beaucoup, 14 euros sur un SMIC net tous les mois, et 28 euros pour un salaire moyen. Vous vous rendez compte, si on ampute un salaire moyen de 2500 euros et on lui retire 28 euros, c'est quand même beaucoup. Il y a une troisième proposition, et je termine par là, en finir avec le chômage. Vous savez qu'actuellement, on a 7 7%, un peu plus de 7% de chômeurs. Les syndicats disent qu'on devrait descendre à 4,5%. Ce serait possible dans un pays comme la France.
Et là, on règle aussi la question.
Et là, on n'y arrive pas parce qu'il n'y a pas la formation. Les salaires sont considérés comme trop bas et il y a cette fameuse pénurie. Mais quand on regarde le site Pôle emploi, vous avez 1 million d'emplois disponibles tout de suite. Donc, il y a un vrai problème. Mais ce n'est pas le choix qui a été fait par la France, par difficulté. Voilà, le débat est ailleurs, si vous voulez.
Allez, on continue d'en parler juste après la pub.
C'était votre programme avec XXL Maison, mobilier design et décoration.
C'est ça qui va nous occuper dans la prochaine demi-heure, la réforme des retraites avec la présentation du texte par Elisabeth Borne. Ce sera un petit peu plus tard cet après-midi et l'opposition qui fourbit déjà ses armes. Vous allez voir, on va être en duplex avec des membres de l'opposition depuis le Palais Bourbon tout à l'heure. De retour avec vous pour la deuxième partie de 90 minutes info. On reprend le débat avec nos invités juste après le journal. Mickaël Dorian, bonjour.
Bonjour Nelly, bonjour à tous. C'est à la une de l'actualité, le très délicat sujet des retraites. Présentation officielle de la réforme par Elisabeth Borne tout à l'heure à 17h30. La première ministre qui a déjà annoncé lors des questions au gouvernement que l'engagement d'une pension minimale à 1 200 € pour les nouveaux retraités sera tenu. Dans le reste de l'actualité, après 3 mois de bras de fer, un accord vient d'être signé entre l'assurance maladie et les laboratoires d'analyse médicale. Il prévoit une baisse de budget de 250 millions d'euros et une nouvelle négociation pour la période 2024-2026. Le syndicat des biologistes appelle à mettre fin à la grève dès demain. Vous l'avez peut-être remarqué en allant faire le plein, les prix à la pompe s'envolent une nouvelle fois. Et voilà justement une initiative qui risque de faire des envieux parmi les automobilistes des autres régions. À Trébis, comme dans d'autres villages des Côtes d'Armor, des maires ont décidé de devenir propriétaires et gestionnaires de stations-service. Un service offert à la population affichant un prix à la pompe ultra compétitif. Reportage de Jeanne Cancard et Kinson.
Lorsqu'elle a emménagé ici à Trébis, cette infirmière a été très surprise de découvrir une station-service communale.
Je viens d'une région en fait où les villages n'ont pas du tout de station essence en fait. Vu le prix de l'essence maintenant dans les grandes surfaces, il n'y a plus une grande différence. Hein.
Le propriétaire de cette station-service n'est autre que la mairie de la commune. Une idée qui a germé en 2019 lors de la rénovation du bourg.
Cette semaine, on est sur une moyenne de 700 litres par jour.
Et c'est le maire qui gère seul les commandes chez les fournisseurs pour l'achat du carburant.
Il n'y a aucun but de faire de bénéfices, c'est juste le plus important, c'est un service à la population.
À une dizaine de kilomètres plus au sud, une autre commune des Côtes d'Armor, le Gouret, a investi 270 000 euros pour 2 stations-service.
Au lieu d'aller dans les grandes villes comme à côté, la Lamballe, ça permet d'en avoir plus près de chez soi et d'éviter de faire des allers-retours où justement on peut perdre de l'essence, enfin, ça peut devenir plus cher que d'aller au plus près de chez soi.
La marge sur les prix d'achat du carburant n'intègre pas les budgets communaux, mais sert à payer les différents frais, comme la maintenance des stations-service.
Et on vous en parlait hier, Noël Le Graët a provoqué la polémique en tenant des propos totalement déplacés sur Zinedine Zidane. Kinson, vous êtes actuellement au siège de la Fédération française de football. Le président de la fédération est arrivé, il est actuellement auditionné pour une toute autre affaire.
Oui, exactement. C'est son avenir qui se joue en ce moment même. Depuis près d'une heure, Noël Le Graët est interrogé sur les dysfonctionnements au sein même de l'instance, mais aussi pour des faits présumés d'harcèlement sexuel. Et clairement, l'étau se resserre sur le président de la Fédération française de football. Vous l'avez dit, Mickaël, après ces déclarations qui ont fait polémique sur Zidane, le timing est clairement néfaste pour Noël Le Graët. Et dans le cadre de l'audition initiée par le ministère des Sports, 3 enquêteurs interrogent Noël Le Graët et Florence Ardouin. L'entretien se fait de manière individuelle pour permettre aux 2 dirigeants de répondre aux éléments réunis ces derniers mois par les enquêteurs. Et c'est seulement à l'issue que les 14 membres du COMEX se réuniront et prendront une décision. Je vous rappelle qu'ils sont les seuls habilités à pouvoir remettre en question le mandat du président actuel et le pousser éventuellement vers la démission. Et on vient de l'apprendre il y a à peine quelques minutes. À la demande du président de la Fédération française de football, un comité exécutif aura lieu demain matin.
Merci Kinsen en direct du siège de la Fédération française de football. Et puis le nouveau livre du Prince Harry dans les rayons des librairies, Le Suppléant, sort aujourd'hui avec son grand déballage de révélations et d'attaques contre la famille royale britannique. En interview à la télévision, le fils du roi Charles III est notamment revenu sur les tensions avec son frère William. Écoutez.
Je pense que ma mère aurait le cœur brisé par le fait que William et son bureau font partie de toutes ces histoires. William et moi, nous avions passé un pacte. Peu importe ce qu'il se passait, nos bureaux ne devaient jamais se confronter.
Vous pensez qu'il a brisé ce pacte ?
Oui, les gens qui travaillent pour lui ont brisé ce pacte.
Et voilà pour l'actualité, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews avec Nelly Denac et la suite de 90 minutes info.
Merci beaucoup cher Mickaël et à demain pour de nouvelles infos à votre compagnie. Vous le savez, c'est un combat titanesque qui s'amorce dès aujourd'hui à l'Assemblée nationale autour de l'épineux texte de la réforme des retraites. Le gouvernement qui va donc présenter aujourd'hui ses choix pour l'avenir de notre système de retraite avec... Le report, évidemment, de l'âge légal de départ, qui est le cheval de bataille, la mère des batailles. Bonjour Gauthier Lebray. Alors, on a compris qu'il y avait deux camps dans l'opposition, ceux qui s'y opposent radicalement, et les LR qui pensent qu'un accord est possible, avec donc 62 députés. Ce sont eux qui détiennent la clé du vote.
Absolument, vous avez tout résumé. Et ce formidable revirement des Républicains, je vous rappelle qu'il y a à peine quelques mois, quand ils soutenaient Valérie Pécresse, eh bien, ils étaient pour une réforme des retraites à 65 ans. Mais voilà, aujourd'hui, ils trouvent ça trop brutal. Et c'est pourquoi eh bien, le gouvernement, Elisabeth Borne, pourrait annoncer tout à l'heure d'abord une réforme dans un premier temps à 63 ans, puis à 64 ans, pour s'attirer le vote des Républicains. Éric Ciotti prendra la parole juste après la Première ministre sur une chaîne de télévision. On connaîtra peut-être... Eh bien, sa position. Est-ce que les Républicains vont soutenir le gouvernement ? Il pose une autre condition en plus de l'âge, la retraite minimale à 1200 euros pour tous. Ces dernières semaines, le gouvernement expliquait que cette retraite minimale à 1200 euros ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants, puisqu'évidemment ça ne coûte pas du tout la même chose. Si ça s'applique qu'aux nouveaux entrants, ça coûte 1 milliard d'euros par an, et si ça s'applique eh bien, à tous les retraités, ça coûte 2,7 milliards d'euros. Et donc le gouvernement pourrait faire le choix là aussi de céder aux Républicains, surtout que les députés de la majorité sont aussi pour que ça s'applique eh bien, à tout le monde. Un mot sur la gauche, sur la France insoumise qui va évidemment s'opposer à cette réforme, à la fois dans l'hémicycle mais aussi dans la rue. Une manifestation est prévue le 21 janvier prochain. Et puis la France insoumise va déposer des milliers d'amendements ici au Parlement pour tenter de freiner eh bien, l'examen de ce texte. C'est ce qu'on appelle de l'obstruction parlementaire. Enfin, concernant le Rassemblement national qui va évidemment aussi s'opposer à ce texte, eh bien là, Jordan Bardella a dit aujourd'hui, ce matin, devant les journalistes, puisqu'il présentait ses vœux à la presse, que le rôle du Rassemblement national, c'est de s'opposer dans l'hémicycle et non dans la rue, contrairement donc à la France insoumise.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, nous serons grâce à vous tout à l'heure en ligne, en direct, avec Laure Lavalette, dont on a vu qu'elle se préparait derrière vous pour son duplex à suivre. Elle nous en dira plus sur l'action que compte mener le Rassemblement national dans l'hémicycle. À tout à l'heure. Benjamin Morel, c'est un fait nouveau quand même que cette extension éventuelle des 1200 euros de minimum retraite.
Oui, alors c'est quelque chose qu'il gardait un peu en réserve. A priori, on peut penser que ce sera cédé tout bêtement parce qu'il faut le vote des députés LR et qu'il faut éviter que la majorité se divise. Qui plus est, ça peut apparaître. La grande chance du gouvernement, c'est que LR et la gauche de la majorité sont un peu sur la même ligne, c'est-à-dire une ligne de modération de la réforme. Après, attention, c'est-à-dire que lorsque l'on dit que LR va se rallier à la majorité pour voter cette réforme, il faut voir deux choses. Écoutez Aurélien Pradier chez vos confrères. Il n'est pas prêt à voter la réforme, lui. Et donc, quand vous regardez aujourd'hui ce qui se passe à l'Assemblée nationale, LR est le groupe le plus abstentionniste et LR est le groupe qui vote le plus en ordre dispersé. L'important, ce n'est pas d'avoir 289 députés sur le papier pour voter votre réforme. L'important, c'est que sur chaque amendement, sur chaque article et in fine sur le vote final, s'il y a 10 présents, il faut qu'il y en ait 6 qui votent pour. Et on va avoir plein d'accidents de séance, des amendements que n'envisageait pas le gouvernement et qui vont passer par une alliance baroque entre LR, le RN et la NUP. Donc ce faisant, il y a encore très très loin de la coupe aux lèvres sur ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Le gouvernement en est conscient. Il a choisi, c'est un peu technique, un projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale, ce qui lui permet d'user d'un 49 alinéa 3, entre guillemets, gratuit, et d'avoir une phase de 50 jours, après quoi eh bien, les délais sautent.
Éric, si, sans être trop technique, l'achoppement majeur, évidemment, c'est sur l'âge. Et d'ailleurs, oui. Quel qu'il soit, les oppositions, les syndicats ont dit « nous, on ne veut pas toucher à l'âge ».
Ah ben là oui, c'est un front syndical, mais on est parti de 65, lâchera sans doute 64. Peut-être même que ça aura une surprise, puisqu'elle va peut-être même partir sur 63.
Une base plus basse.
Ouais. Jusqu'à ouais. 2030, vous voyez, il y a 7 ans. Donc elle peut très bien, ce qui devait être fait sur un quinquennat de 5 ans, peut être fait sur 7 ans finalement. Vous voyez, enfin, il y a plein d'options possibles, et ce seront les discussions à l'Assemblée. Il y aura des amendements, donc elle sera obligée d'apporter un petit peu de grain à moudre, comme on dit. Hein.
Mais... Jean Messia, on a l'impression quand même que chaque semaine apporte son lot de surprises. Est-ce que ça ne donne pas l'impression qu'on navigue à vue sur ce dossier ?
On navigue à vue, et en plus on est atteint, comme d'ailleurs depuis des décennies, par une sorte de réformite. C'est-à-dire que la réforme Touraine, pour moi, était un peu la panacée, c'était la solution. Alors on peut discuter de la rapidité, de la vitesse de sa mise en œuvre, on peut accélérer éventuellement sa mise en œuvre, mais je ne suis pas sûr qu'il faille bouleverser l'équilibre qui avait été trouvé par la réforme Touraine en introduisant, je dirais, d'autres réformes majeures, comme par exemple le décalement de l'âge de la retraite. En fait, l'âge de départ à la retraite, finalement, c'est pas si important que cela, parce que si vous avez 43 annuités et que vous rentrez sur le marché du travail après quelques années d'études à 22 ou 23 ans, bah vous prendrez pas votre retraite à 63 ans ni à 64. Vous la prendrez au mieux à 65, au pire à 66 ou 67 si vous la voulez à taux plein après 43 annuités. Donc vous voyez, je dirais, pour pouvoir partir à 63 ans en l'état actuel de la réforme, il faut quand même avoir commencé à travailler très tôt, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, la solution à la réforme des retraites ne se trouve pas dans la comptabilité et dans la gouvernance et dans les finances publiques, elle se trouve dans l'économie et dans la démographie. L'économie, parce qu'évidemment, en fonction du taux de croissance et du taux d'emploi, c'est-à-dire du taux de chômage, bah, vous n'avez pas du tout le même type de financement de la retraite si vous avez un chômage de masse sur très long terme et si vous avez un faible chômage. Donc il faut d'abord s'attaquer, je dirais, à faire redémarrer l'économie, à réindustrialiser l'économie, à créer des richesses pour pouvoir se donner la possibilité de financer non seulement un système de retraite par répartition de manière convenable, mais un État social de qualité.
Alors, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que les Français n'en veulent pas, et massivement. Pour autant, iront-ils le dire dans la rue ? Écoutez ces quelques réactions.
Je suis encore assez jeune, mais je trouve que si on n'a pas le choix, si on n'a pas l'argent pour financer les retraites, soit on travaille plus, soit on paye moins nos retraités, soit on met plus d'impôts sur les personnes qui travaillent. Donc je trouve que travailler plus longtemps, ça peut être une bonne solution.
Dans un sens, on vit plus longtemps. Au fil des années, il va falloir qu'on travaille un peu plus longtemps, c'est logique.
C'est beaucoup trop, et j'estime qu'il faut quand même beaucoup plus d'années pour profiter de sa retraite et pas forcément se consacrer que sur le travail professionnel. Et surtout au vu des indemnités qu'on a à l'heure actuelle, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin.
Et comme je vous le disais, Laure Lavalette, députée RN du Var, est avec nous. Bonjour, merci de nous rejoindre en direct sur l'antenne de CNews depuis le Palais Bourbon. Alors vous, le combat de la rue, trop peu pour vous. Hein. En revanche, vous serez de toutes les batailles dans l'hémicycle. Vous avez prévenu l'émotion, les amendements. Et vous entendez bien mettre les LR face à leurs responsabilités.
Exactement. Vous savez, ça n'est pas dans l'ADN du Rassemblement national, déjà, de descendre dans la rue. Et puis, vous savez, nous nous préparons à l'alternance, nous nous préparons à gouverner. Donc, effectivement, une posture, j'allais dire, plus sérieuse. Et évidemment, le combat se passe dans le cœur du nucléaire, qui est l'Assemblée nationale. C'est bien ici qu'on va pouvoir contrer pied à pied, amendement par amendement, les propositions injustes, antisociales et illégitimes du gouvernement d'Emmanuel Macron sur cette réforme des retraites.
Quand Jordan Bardella dit, je crois que c'est ce matin, lors de ses voeux, c'est un mensonge que ce régime menaçait de faillite. Mais alors, comment on le finance à la place ?
Comment on le finance ? J'ai écouté quelqu'un sur votre plateau, j'arrive pas bien à savoir qui c'est. Je pense qu'effectivement, il y a une grande absente de cette réforme des retraites, c'est la productivité, qui est quand même une idée fondamentale. Il faut effectivement que les emplois financent, amènent des recettes à l'État. Et en fait, on voit bien que tous les emplois qui ont été créés les 5 dernières années sous la France d'Emmanuel Macron sont des emplois ubérisés, sont des emplois dont la productivité est quasi nulle et surtout ne peut pas augmenter. Vous savez d'ailleurs, notre taux de productivité est à 0,2 points, alors que celui de la moyenne de l'OCDE est à plus de 5 points. Donc on voit bien que la solution est aussi dans la réindustrialisation, évidemment, de notre pays, et aussi de la démographie. Pour ça, il faut avoir une politique nataliste incitatrice, exactement comme Marine Le Pen le proposait pendant sa campagne présidentielle, notamment, vous vous souvenez, en donnant une part fiscale pleine dès le deuxième enfant. Et sans parler de ces deux jambes, il est complètement utopique de penser que simplement le report de l'âge charge légale de la retraite est la solution. Il suffit d'ailleurs de reprendre ce que disait Emmanuel Macron en 2019 en disant que ce serait complètement hypocrite de penser que ce sera la solution. Parce que je le rappelle quand même, dans cette réforme complètement injuste, et nous venons de le vérifier, quelqu'un qui commence à travailler à 18 ans, on va devoir travailler 44 annuités pour partir à 62 ans à la retraite. Alors effectivement, ça ne concerne pas les ministres, hein, qui eux ne commencent pas à travailler à 18 ans, mais ça participe, si vous voulez, à une précarité et surtout à un enjeu de société aussi. Vous savez, c'est un peu, dis-moi quelle est la réforme de retraite que tu veux mettre en place et je te dirai quelle est la société dans laquelle tu veux vivre. Effectivement, là aussi, nous avons deux projets complètement différents. Nous ne pensons pas qu'il y a uniquement une question budgétaire, mais évidemment une question sociale. Et dire aux Français vous allez commencer votre retraite à l'âge où l'espérance de vie sans incapacité s'arrête. On voit bien que ça pose un vrai souci. En tout cas, nous avons deux visions complètement différentes et comptez sur nous pour avoir l'énergie de défendre notre projet.
Question, en quelques secondes, on va faire un peu de politique quand même. Est-ce que vous avez profité, parce que j'ai vu que, vu votre proximité dans l'hémicycle, vous essayez périodiquement d'attirer à vous certains députés LR un peu perdus ou un peu tangents. Est-ce que vous allez profiter justement de ces divisions en interne sur toutes ces questions pour tenter de rallier à vous ces votes un peu égarés?
Parce que ce qui est certain, c'est qu'on va voir déjà si les LR arrivent à retrouver leur courage. Les LR, pour l'instant, c'est un peu 50 nuances de lâcheté. On le voit bien, ils sont déjà très divisés. Déjà, quand on dit LR, on ne sait plus bien de qui on parle. Je pense que si vous prenez les réactions d'Aurélien Pradier hier, qui dit bien qu'il y a une ligne rouge, qui est l'âge légal de départ à la retraite, et quand vous entendiez Éric Ciotti, qui va probablement signer comme un seul homme cette réforme des retraites, effectivement, les LR qui déjà n'avaient pas d'espace politique, hein, après cette ramassée, j'allais dire, aux élections présidentielles, vont avoir beaucoup de mal à exister. Et effectivement, la réforme des retraites sera peut-être le coup de grâce donné aux Républicains.
Merci beaucoup, Laure Lavalette, d'avoir répondu à nos questions en direct de l'Assemblée. Et on remercie évidemment Gauthier Lebray et nos équipes sur place pour la réalisation de ce duplex. Éric, il y a un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, c'est cette notion de pénibilité. Ça aussi, c'est quelque chose de très important parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas du tout pris en compte, a priori.
Alors, ça sera justement parmi les gestes qui seront faits hein, pour adoucir la réforme. Par exemple, on sait, selon certaines informations qu'on a, que ceux qui démarreront vraiment très tôt dans la vie, hein, par exemple à 16 ans, parce qu'il y en a hein, beaucoup qui commencent très très tôt, là, ils bénéficieront de départ anticipé. On parle même de départ anticipé 6 ans avant l'âge légal. Alors, si vous faites le calcul, l'âge légal serait 64 ans, vous retirez 6 ans, bah, ça fait 58 ans. Voilà, donc vous voyez, il y aura des aménagements. Il y aura aussi des aménagements pour ceux qui bénéficient encore de régimes spéciaux. Il y en a à la RATP, par exemple. Il y en a encore chez les gaziers, il y en a encore chez EDF. Donc voilà, même s'ils ont été réformés dans les réformes précédentes, ils ont été revus, eh bien, il reste encore des cas particuliers. Et ça, c'est justement ce qui sera donné par Elisabeth Borne et ce qui sera discuté au Parlement.
Les syndicats vont donc se réunir. Ils ont bien l'intention de battre le pavé en masse, rejoints par les partis de gauche, parce qu'ils ont déjà dit « votre heure sera la nôtre ». En gros, enfin, le jour que vous choisirez sera également le nôtre. Vous y croyez à cette mobilisation de la rue, à cette fameuse étincelle qui pourrait prendre ?
Ce n'est pas du tout certain, parce qu'effectivement, le gouvernement a encore un certain nombre de marges de manœuvre pour adoucir sa réforme, et en particulier les 1200 euros de retraite minimale pour tous. Pour le moment, ce serait pour ceux qui seront retraités à l'avenir, et non pas pour ceux qui le sont déjà. Et là, il y a une vraie forme d'adoucissement, et qui peut faire que les plus modestes ne descendent pas dans la rue, ne rejoignent pas la mobilisation. Mais moi, ce que je voulais ajouter quand même, c'est qu'on peut littéralement prédire aux Français qu'avec tous ces raisonnements, eh bien, on recommencera indéfiniment, on remettra des réformes successives de la retraite sur le métier. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'extrême-gauche voudrait rester à 60 ans, tout comme le voudrait le Rassemblement national, ce qui n'est tout simplement pas possible. Quant à Renaissance ou à la majorité présidentielle, ils ne parlent pas de la natalité. Et le facteur qui a une influence majeure et qui peut éviter qu'en 2070, il y ait 6 actifs pour 5 retraités, eh bien, c'est la politique familiale, c'est le soutien, l'encouragement
à la famille. Une politique nataliste, ça coûte aussi de l'argent, c'est-à-dire qu'il y a
un investissement. La branche famille de la Sécurité sociale a toujours été tellement excédentaire et tellement bien gérée, avec les cotisations, etc., qu'elle sert, déjà aujourd'hui et depuis quelques années, à financer une partie des retraites. Et donc, Donc, il y a véritablement, de toute façon, un intérêt incroyable à encourager à la famille. D'abord, aujourd'hui, il y a une chute de la natalité comme jamais on en a connu en France. C'est gravissime pour l'économie, c'est gravissime pour tout le fonctionnement de notre pays.
Sauf pour l'immigration.
Et c'est gravissime pour tout notre système social, et notamment les retraites. Tant qu'on ne s'attaquera pas à ce sujet-là, et ça n'est visiblement pas l'intention de Macron, et ce n'est pas ce que demande le Rassemblement national, en tout cas, on va voir, mais ce n'est pas là-dessus qu'ils ont l'air de se battre, ni la NUPES. Dans ce cas-là, on ne pourra faire qu'un constat d'échec, j'allais dire, quinquennat après quinquennat. Espérons que la droite finisse par s'en saisir et par le poser comme condition. Autrement, tout cela n'est que du vent et n'est que du temps perdu.
Benjamin Morel, sur cet aspect politique nataliste, c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce qu'on ne renouvelle pas pour l'instant la population.
Je rejoins tout à fait ce qui a été dit. La réforme de 2014 de François Hollande a été absurde et criminelle. Il faut voir qu'on avait un atout sur nos voisins. Tout à l'heure, vous évoquiez les dispatchages des différents âges de départ à la retraite en Europe. En réalité, l'Allemagne, l'Italie sont des pays vieillissants. Et ça explique en partie pourquoi est-ce qu'on a fait ces réformes très tôt, parce qu'en réalité, on avait une population vieillissante, il fallait bien sauver le système des retraites. En France, si on a pris un peu plus de temps, il y a des blocages, etc. peut-être, mais il y a également le fait qu'on voyait l'avenir avec, jusqu'en 2014, un relatif optimisme, une relative sérénité, parce que justement, on avait, avec l'Irlande, un taux de natalité extrêmement important. Le fait qu'on ne veuille pas revenir, par idéologie, par blocage, sur ce qu'a fait François Hollande en 2014, est tout simplement incompréhensible. Pas seulement sur les retraites, parce qu'on hypothèque l'avenir de la nation. Et un deuxième élément, c'est l'emploi des seniors également. Où là, il y a quand même un gros, gros sujet, parce que c'est bien beau de dire on va augmenter l'âge de la retraite, pourquoi pas, je ne rentre pas dans la polémique à ce stade-là. Mais si jamais les déficits des retraites pas sur la déficit de l'assurance chômage, parce qu'en réalité, on a tout d'un coup des gens qui passent au chômage, ça ne sert à rien.
Ce qui est incroyable, si vous voulez, c'est que on dit toujours l'argument du coût. Mais c'est un argument qui n'avait pas tellement embarrassé le gouvernement quand il s'est agi des mesures de lutte contre le Covid, le quoi qu'il en coûte, etc. Or là, en fait, le problème du système des retraites, c'est un problème de financement. Oui, donc pourquoi, en fait, le gouvernement, finalement, qui a sorti une sorte de bazooka budgétaire pour éteindre toutes les crises, qu'elles soient sanitaires ou sociales au moment de la crise des Gilets jaunes, en ce qui concerne les retraites, il va demander un effort considérable à travers cette réforme, alors même que l'argent, il le sort quand même beaucoup plus facilement dans d'autres domaines. Et la dernière chose que je voulais très rapidement, c'est que les Français, dont on dit qu'ils sont massivement hostiles à cette réforme, excusez-moi, une majorité d'entre eux a quand même mis un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne, alors qu'Emmanuel Macron avait été très clair sur sa volonté de mettre... Alors, à un moment, il faut que le peuple se mette en adéquation avec ses arrière-pensées.
Pour dire que l'État est trop endetté. Aujourd'hui, vous avez 3 000 milliards de dettes, c'est impossible d'aller plus. Or, les retraites sont financées justement par ce déficit.
Oui, mais vous dites, ils auraient pu choisir leur bataille.
Les taux aujourd'hui sont à 3%, ils étaient à zéro pendant des années. La France peut plus.
Mais ils avaient d'autres priorités.
Non, mais attendez, si demain il y a une explosion, une crise. Non, mais attendez, monsieur Edmond Ritmaten, si demain il y a une explosion sociale d'ampleur égale ou pire que celle des Gilets jaunes, vous pouvez être sûr que le gouvernement va sortir le chéquier pour calmer les choses, dette ou pas dette. Donc, vous voyez.
Je voudrais quand même compléter pour dire que les Français sont peut-être opposés à la réforme des retraites, mais en tout cas, ils sont favorables, ils plébiscitent la famille. Et là-dessus, il faut quand même rappeler que François Hollande, en 2015, a mis sous condition absolument liberticide le congé parental et mis en difficulté les parents. Il a abaissé le quotient familial, il a mis fin à l'universalité des allocations familiales et tout un certain nombre de trains de mesures. Emmanuel Macron n'est jamais revenu là-dessus. Et non seulement il faut revenir là-dessus, mais il faut changer d'état d'esprit et il faut en plus développer d'autres initiatives et d'autres mesures en faveur de la famille. Sans cela, encore une fois, tout cela n'est que du temps perdu et du vent.
Merci.
Qu'on adresse aux Français.
Merci beaucoup. On va s'interrompre à nouveau et puis on reviendra pour la toute dernière partie. On parlera de ces urgences où les services d'urgence, où les arrêts maladie tombent en cascade. 90% des soignants d'un service de l'hôpital de Pontoise, 90% ont déposé un arrêt maladie hier. Déjà que la situation était grave,
vous
imaginez ce que c'est dans les urgences en ce moment. À tout à l'heure. On attaque la dernière partie de ce débat juste après le flash d'Adrien Spiteri à nouveau.
La première ministre Elisabeth Borne dévoile la réforme des retraites à l'Assemblée nationale cet après-midi. Le projet prévoit une pension minimale pour tous les retraités à 1200 euros. La mesure phare sera l'allongement de l'âge de départ à 64 ou 65 ans. Aujourd'hui, plusieurs syndicats devraient appeler à une première journée de manifestation contre le projet du gouvernement. La Cour des comptes s'inquiète à l'approche des JO 2024. Elle pointe la sécurité et les transports comme risque à circonscrire. Elle demande au comité d'organisation d'accélérer la signature de certains contrats. Un rapport doit être présenté aujourd'hui à l'Assemblée et au Sénat. Et puis l'Union européenne et l'OTAN promettent de nouvelles aides à l'Ukraine. Des discussions sont prévues la semaine prochaine pour voir quel type d'armes sont nécessaires. La réunion sera organisée en Allemagne. Le ministre ukrainien de la Défense doit y assister.
Et aussi. Pas un seul jour sans qu'on parle de ces urgences qui sont à chaque fois au bord du précipice. Aujourd'hui, on va évoquer le cas de l'hôpital de Pontoise où 90%, vous avez bien entendu, 90% des soignants du service ont déposé un arrêt maladie hier. Ils dénoncent la dégradation et bien sûr des conditions de travail, mais également le traitement des patients, les longues attentes et les drames parfois qui se déroulent sous leurs yeux. Reportage Jeanne Cancard, Augustin Donadieu, Fabrice Elsner.
C'est un appel à l'aide d'une jeune infirmière bouleversée par un drame survenu il y a 2 semaines. Ce jour-là, lors de sa prise de poste aux urgences de Pontoise en début de soirée, cette soignante prend en charge un patient de 70 ans qui attend depuis midi alors que son état de santé est considéré comme prioritaire.
Un dossier qui normalement devrait être installé dans les 20 minutes vu par un médecin. Je l'installe dans mon box il y a environ 20 heures. Je commence la prise en charge. Et d'un coup, le patient fait un arrêt cardiaque. On a fait tout notre possible pour le récupérer, mais on n'a pas réussi.
Le lendemain, le même scénario se répète. Une patiente se présente à 13h aux urgences. Elle doit alors être rapidement prise en charge, mais attendra plus de 7h sur un brancard avant l'arrivée de cette infirmière.
Une demi-heure après, elle était décédée. Le lendemain, je n'avais pas envie de retourner travailler. Je me suis dit, je vais arriver, je vais avoir encore un mort. C'est une remise en question quotidienne. Les box sont tous pris, les lits dans l'hôpital sont tous remplis, le couloir est rempli, la salle d'attente est remplie.
Selon les soignants, ces drames auraient pu être évités s'il y avait eu davantage de moyens humains et matériels.
Ludovine de la Rochère, vous avez sans doute en mémoire ce qu'on disait à l'époque de la crise Covid, quand on disait surtout ce qu'on ne veut pas. Si on arrivait à trier les patients à l'arrivée, c'est exactement ce qui est en train de se produire.
Alors c'est une sorte de tri de facto, effectivement, en tout cas l'incapacité concrète de soigner un certain nombre de personnes qui arrivent dans un état grave. Évidemment, c'est tout à fait tragique et il en va de la responsabilité, non pas des soignants évidemment, mais bien de ceux qui, sur un plan administratif et politique, depuis des dizaines d'années, ont pris un certain nombre de décisions ou parfois de non-décisions et qui ont abouti à la situation présente. Alors il y a un certain nombre de facteurs qui sont tout à fait identifiés. D'ailleurs, Emmanuel Macron lui-même a reconnu le problème des 35 heures, etc. La difficulté, c'est qu'il est au pouvoir depuis déjà 6 ans, enfin c'est sa 6e année. Qu'a-t-il fait depuis ? Rien de significatif et il n'y a pas eu de réforme réelle, structurelle du système de santé. Par ailleurs, il y a un autre paramètre dont on parle peu, c'est que nous avons peu de soignants, nous n'avons pas suffisamment de soignants médecins et infirmiers, non seulement à cause du numerus clausus, mais également parce que nous n'avons pas pris en compte la féminisation du métier. Et cette féminisation, qui en soi ne pose pas de problème, c'est pas parce que ce sont des femmes que cela pose problème, mais elles partent en congé de maternité, elles partent en congé parental, et donc on aurait dû avoir un numerus clausus qui non seulement soit plus élevé, mais qui prenne en compte une forme d'absentéisme de facto. Mais on est tellement dans l'idéologie, on est tellement dans le refus de cette différence entre les hommes et les femmes qu'on ne veut pas le prendre en compte. Or, les hommes ne vivent pas, les femmes ne vivent pas professionnellement comme les hommes. Ça fait partie des causes.
Ça nous ramène aussi, Benjamin Morel, au propos d'Emmanuel Macron il y a quelques jours à peine sur l'avenir de l'hôpital, oui. Ce qu'on veut en faire, un plan dont on a dit qu'il manquait beaucoup d'ambition quand même.
Ah, il manque d'ambition, mais je dirais que l'ambition n'est peut-être pas le premier problème. Le problème, c'est le suivi. Parce que je vous rappelle que Agenda 2022, proclamé en 2018, il y avait déjà ce type d'élément. On n'a pas vu. Juste avant la crise Covid, on n'a pas attendu la crise Covid, il y a un grand mouvement dans les urgences pour demander des soignants, des lits, etc. Là, déjà, il y avait un problème. On disait non, il n'y a pas de problème en réalité. Le gouvernement disait mettons ça sous boisseau. Est arrivée la crise Covid, zut. Et là, en effet, il a fallu traiter ce problème. On ne l'a pas réellement traité. On a fait des revalorisations, le Ségur, etc. On ne l'a pas réellement traité. Arrive François Braun. Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, il y a peut-être un problème aux urgences. Attention, souvenez-vous, la mission flash sur les urgences. Comme si le constat n'avait pas été déjà fait Alors que, écoutez, Macron en 2018, il le faisait déjà. Donc on a une mission flash. Maintenant, on a toutes les données dans les mains. On a un Emmanuel Macron.
On passe son temps à faire des diagnostics,
mais
des missions.
On fait des missions, on fait des diagnostics, on lance des plans qu'on n'exécute pas derrière. Et évidemment, ensuite, on s'étonne que les choses ne vont pas mieux. Il est temps aujourd'hui réellement d'agir.
Ils peuvent jamais faire.
Le problème, si vous voulez, c'est que les urgences françaises sont devenues une sorte de cour des miracles de tout ce qui ne fonctionne pas dans notre pays. C'est-à-dire que ceux qui ne trouvent pas un médecin de ville vont aux urgences, ceux qui se présentent auprès d'un spécialiste qui n'ont pas de rendez-vous, qui doivent attendre 3, 4, 5 mois, ils vont aux urgences. Et en réalité, les urgences se trouvent être le guichet de tous les dysfonctionnements du système médical dans son ensemble, que ce soit la médecine de ville ou même la médecine hospitalière. Alors évidemment, ça vient de très loin, ça vient de choix économiques et financiers et politiques qui ont été faits depuis une trentaine d'années, qui ont voulu libéraliser et marchandiser en quelque sorte la santé, au point qu'aujourd'hui, eh bien, on cumule les inconvénients d'une bureaucratie émanant du service public et eh bien, de la disette ou du côté malthusien que peut générer une approche de marché. Voilà, donc on est dans cette seringue-là, sans mauvais jeu de mots, et les urgences, eh bien, c'est le révélateur de cet hôpital qui jadis était le fleuron de notre système de santé, un fleuron mondial et qui se retrouve aujourd'hui à être un vaste mouroir.
Allez, on va parler du livre événement du mois, peut-être de ce début d'année, sans conteste. Son titre, Spare, ça veut dire le suppléant en français, si on traduit, ou le remplaçant. Enfin, bon. L'auteur, le prince Harry, évidemment, très attendu, déjà un carton dans les librairies en Grande-Bretagne. Alors 3 ans après sa rupture avec la monarchie, beaucoup attendaient d'en apprendre plus sur les coulisses de la couronne, sur les rapports compliqués aussi entre les deux frères héritiers. Et de fait, eh bien, il y a des passages marquants qui ont déjà été dévoilés, notamment l'histoire de la bagarre entre frères où ils se retrouvent plaqués au sol par le prince de Galles. Il en a remis une petite couche lors de sa tournée des télés pour faire la promo du livre. Écoutez-le parler de cette rivalité avec William.
Il y a toujours eu de la compétition entre William et moi, bizarrement. Et je pense que la presse y a grandement contribué en nous montant l'un contre l'autre. Ils ont montré le duché du Pays de Galles, représenté par Kate et William, contre le duché de Sussex, ma femme et moi. Ils nous ont toujours monté l'un contre l'autre. Ils ont même monté Kate et Meghan l'une contre l'autre.
Et ça a fini par marcher, visiblement. Bonjour Andrew Simkin, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes président de la première société patriotique d'Angleterre. Est-ce que vous l'avez acheté déjà ou vous l'avez envoyé le livre ?
J'en ai vu tellement d'extraits.
D'accord, vous avez l'impression de le connaître par cœur.
J'en ai même entendu, j'étais touché par la voix de Harry qui raconte son enfance. C'est beau l'audio-livre.
Alors, ce qu'il dit là à propos de William, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une forme de rivalité alimentée par les médias, par ceux qui veulent toujours les mettre en opposition, pour ceux qu'ils ont vécu aussi plus jeunes, ou vous dites que c'est quand même un peu pathétique, cette histoire de famille.
Il est en pleine catharsis, ce pauvre garçon. Nous l'avons vu défiler derrière le cercueil de sa mère en 97. Il avait 12 ans. Apparemment, il n'a jamais versé de larmes depuis. Et là, donc, il s'exprime. Il s'exprime. Il cherche des coupables. Moi, j'ai un frère. On s'est toujours bagarré. C'était drôle. Oui. Il y a toujours une rivalité entre garçons.
En soi, c'est pas exceptionnel.
Ça ne me surprend pas du tout.
D'accord. Mais pour vous, il n'a pas encore crevé l'abcès de ce mal-être qu'il ressent.
Le titre de son livre, en français, c'est le suppléant, mais spare veut dire ce qui est en trop. C'est la cinquième roue du carrosse, ce qui ne sert pas.
Oui, on parle de spare tire, c'est-à-dire la roue de secours.
Il choisit un titre qui montre que c'est un homme blessé. C'est un homme blessé. Même s'il a épousé la femme de ses rêves, même si la mère de la femme de ses rêves est thérapeute en Californie, il n'a toujours pas fini sa psychanalyse. Donc je pense que c'est compliqué dans sa tête.
Est-ce que c'est du grand déballage inutile pour vous, Jean Messia ?
Oui, il y a
ou
une forme...
c'est de la com' pour se refaire financièrement ?
Il y a une forme d'exhibitionnisme assez indécent de la part de quelqu'un qui avait annoncé en grande pompe qu'il se retirait de la cour, de la vie monarchique, etc., avec sa femme. Ils ont donc changé de métier, changé de pays, changé de vie. Donc on se demande pourquoi, finalement, il sort ce truc pour reparler de la monarchie. Alors, soit on fait une coupure
et à ce moment-là, on mène sa vie, soit on ne la fait pas vraiment, et c'est ce qui est en train de se passer. Alors moi, je crois qu'il y a des considérations purement, enfin bassement financières, parce qu'on sait d'ores et déjà qu'il est question...
Il y a une avance de 20 millions.
20 millions, voilà. Il faut dire qu'ils ont aux États-Unis, Meghan et Harry, un train de vie qui est quand même assez... extravagant.
Hein, 10 millions.
10 millions, voilà, millions, c'est leur budget de fonctionnement
voilà,
annuel.
Exactement. Donc il faut qu'ils trouvent du pognon comme ils peuvent et un bouquin est le bienvenu pour ça. Après, si vous voulez qu'il y ait également des velléités de vengeance de Harry, mais dont on ne doit pas exclure le rôle joué par Meghan, qui joue aussi un rôle central dans cette affaire. Parce que, excusez-moi, c'est quand même quelqu'un qui avait accepté les fastes royaux lorsqu'il s'est agi de la cérémonie nuptiale du mariage, qui avait accepté d'être marié comme une princesse tout frais payée par la monarchie et qui aujourd'hui, en quelque sorte, crache dans la soupe. C'est pareil, c'est pas très glorieux comme comportement. Et donc tout ça fait que, après, on peut interroger effectivement, vous avez parlé de catharsis, moi je suis convaincu qu'une catharsis c'est encore mieux dans le cabinet d'un psychologue qu'à travers un livre, mais disons qu'effectivement, on peut pas exclure qu'il y ait une volonté de vivre quelque part la vie qu'aurait voulu vivre sa mère, parce que Harry a été très proche de sa mère, il en a beaucoup voulu à son père de s'être remarié, d'ailleurs il a essayé de l'en dissuader, et donc il y a une espèce de Diana qui vit à travers la vie que vit Harry, qui aurait elle aussi voulu prendre le large, couper les ponts avec la couronne, vivre sa liberté qu'il n'a pas pu à l'époque. Et donc là, Harry est en quelque sorte le suppléant de sa mère, encore en l'occurrence.
En tout cas, les Britanniques, ils semblent un petit peu lassés quand même de ce feuilleton princier, même si vous tous allez acheter le bouquin. Hein. Selon un sondage YouGov, 64% d'entre eux ont une image négative de Harry. On va écouter quelques réactions au moment de la sortie du livre.
Tout est une question de contexte, donc je veux vraiment voir par moi-même quelle est la véritable histoire.
J'espère pouvoir en lire davantage sur ce qu'il se passe vraiment derrière les murs du palais. J'ai l'impression que c'est une famille très secrète.
Je veux entendre son histoire racontée avec ses propres mots, parce qu'à ce stade, j'ai l'impression que les médias britanniques radicalisent le public contre le prince Harry.
Benjamin Morel, voilà une famille étonnante quand même, et avec le rôle des femmes aussi qui a l'air un peu central, parce qu'on a évoqué Meghan, on n'a pas parlé de Kate Middleton, on sait que ces deux-là ne s'appréciaient guère, il y a dû avoir une rivalité de cet ordre-là aussi. Hein.
Oui, et ça fragilise fondamentalement la monarchie, moi je suis très républicain, mais au-delà de ça, normalement la monarchie, c'est justement la possibilité, la nécessité en réalité pour l'individu de s'effacer derrière le statut. Il peut y avoir des choses qui se passent dans les coulisses, évidemment, mais il y a le statut, et le statut fait que, comme vous incarnez le pays à travers la famille et à travers le souverain, eh bien, grosso modo, vous mettez tout ça sous le boisseau. On voit que là, il y a une forme de délitement progressif de cette image. Et ça, c'est dangereux pour la monarchie britannique. Quand vous regardez les enquêtes d'opinion, vous voyez que les personnes âgées, etc., sont très attachées à la monarchie. Mais chez les jeunes, l'opinion est plutôt négative, et l'idée d'un changement de régime est aujourd'hui majoritaire, si on prend notamment des enquêtes de YouGov, je crois, de 2018. Donc, aujourd'hui, il y a un danger pour cette famille, s'il continue, entre guillemets, laver son linge sale en public.
Autre extrait, celui d'un retour éventuel ou d'un pardon. Écoutez, c'est là, on est vraiment dans le cœur du sujet quand même avec Harry.
Revenir en Grande-Bretagne dans la famille royale, je ne pense pas que ce soit possible un jour. Vous savez, même s'il y avait un accord ou un arrangement entre ma famille et moi, il y aura toujours une tierce partie qui ferait tout pour rendre mon retour impossible. Pas pour nous empêcher de revenir, mais pour rendre ce retour invivable. Et c'est vraiment triste, parce que ça brise la relation avec ma famille.
Pour moi, plus que le bouquin, c'est ce qu'il dit là qui est important. C'est-à-dire que là, on comprend vraiment que les contacts sont faits au minimum, même pour les obsèques d'Elisabeth II. Bon, il était un peu l'invité. Oui, mais c'était un peu l'invité qu'on cachait. Enfin, il n'avait pas droit à tout non plus.
On a vu les Fab Four réunis justement aux obsèques d'Elisabeth.
Mais c'était vraiment une exception. Enfin, là, ce qu'il nous dit, c'est fini, quoi, cette famille.
Nous sommes au plus bas. Et on ne peut que remonter. Non, c'est très important.
Quand il va divorcer
dans un conflit comme ça, on a deux stratégies possibles. Et il y a la stratégie du pardon, que qu'aimerait bien favoriser son père. Mais pour avoir un début de pardon, il faut une accalmie, parce qu'il continue de tirer sur sa propre famille. L'autre stratégie, c'est ce qu'on appelle le containment ou l'endiguement. Donc d'entourer le couple d'un beau mur bien haut et de ne jamais leur prêter attention. Sauf qu'on est dans l'époque des réseaux sociaux.
Ça va être compliqué entre
eux. Eux, ils maîtrisent bien les médias. Donc on ne peut pas faire ce qu'on a fait à Edward VIII et Wallace Simpson, malheureusement, les mettre dans un hôtel particulier au fin fond du bois de Boulogne et les oublier.
Oui, c'est vrai. Ils se feront toujours entendre. Ludovic de la Rogère, qu'est-ce qui vous inspire cette histoire de famille et cette psychothérapie?
Écoutez, tout cela me paraît me paraît absolument pathétique. D'abord, Harry, si la branche, et Meghan, si la branche sur laquelle ils sont assis, puisque tout leur train de vie, toute leur médiatisation, toute leur notoriété, tout ce qui est leur fonds de commerce, leur provient précisément de la monarchie britannique. Ce sont bien eux qui ne cessent de critiquer. Ils sont même carrément dans une forme de complotisme, de paranoïa. Ils vont nous empêcher de revenir. Et alors, les médias nous ont mis les uns contre les autres. Non, il ne peut pas se dédouaner de ses propres responsabilités. Il se sert des médias allègrement pour le succès de ce livre et pour gagner beaucoup d'argent.
On parle de la série Netflix aussi, enfin, il y a pas mal de...
Etc., tout à fait. Et tout cela se fait sur le dos de tous les efforts qu'a fait sa grand-mère pour représenter dignement son pays et le Commonwealth. Je trouve ça absolument écœurant. Sur le dos de son père, qui tant bien que mal doit gérer cette espèce d'avalanche ordurière, parce que c'est bien ça, c'est bien cela. Et sur le dos de son pays. Il porte un tort, je pense, vraiment à son pays. J'ajoute que Harry, bien sûr, comme tous les numéros 2, c'est un grand classique. Margaret par rapport à Elizabeth, ou lui-même donc par rapport à William, c'est un grand classique des régimes.
Margaret a une vie mouvementée aussi, mais elle n'a pas écrit de bouquin.
Mais on n'était pas à l'époque des réseaux sociaux, d'un nombre aussi immense de médias, etc., etc. Harry, avec Meghan, et ça n'est pas du hasard non plus, l'exploite à fond et jusqu'au bout du bout. Meghan est une femme de médias et c'était une actrice. Elle sait très bien utiliser cela. Elle a pris tous les avantages et elle le prend en s'alliant ou en étant contre.
Jean, vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour le personnage de Meghan Markle, hein?
Non, parce que je n'aime pas les profiteurs, je n'aime pas les gens qui crachent dans la soupe, je n'aime pas les mauvais esprits, et je rejoins ce que disait Ludovine de la Rochère, on ne peut pas vivre uniquement sur la notoriété acquise auprès de la monarchie pour venir ensuite gagner de l'argent en critiquant cette même monarchie. De toute façon, ça aura une fin. Au bout d'un moment, ça n'intéressera plus personne. Leur rôle sera connu. Ouais. Les gens n'achèteront plus leurs livres. Ils disparaîtront dans les méandres de l'histoire.
Est-ce qu'il peut y avoir, Andrew, un retour de bâton à tout ça? C'est-à-dire une tournure un peu, non anticipé des événements, peut-être à la faveur un jour de la séparation de ce couple. Enfin, ça serait quand même comme une sorte de conte de fées, quoi. Retour du fils prodigue dans le giron familial.
Je pense que c'est le seul avenir possible. Il faut absolument qu'il revienne. Il faut que l'on trouve un rôle pour lui. Et justement, on a parlé de la poule aux œufs d'or ou la branche sur laquelle ils sont assis. Il faut absolument qu'il puisse récupérer ce capital. Donc, il faut un capital sympathie, vite. Je voulais juste faire un petit parallèle avec Shakespeare, parce que Charles a beaucoup cité Shakespeare dans tous ses discours depuis. Dans Hamlet, Hamlet, c'était le seul à avoir raison au royaume de Danemark. Donc, est-ce qu'il est seul face à la presse britannique à oser dire à quel point ce sont des vrais méchants? C'est un monde dur. Et l'autre pièce de Shakespeare à laquelle je pense, c'est pour aller dans le sens de mon ami Jean, c'est Macbeth. Parce que c'est Lady Macbeth qui a pratiquement obligé son mari à tuer le roi d'Écosse pour prendre sa place.
Drôle de parallèle, mais pourquoi pas, le
pardon est la seule issue.
Essentielle. Merci beaucoup, Andrew Simkin, d'être venu parmi nous. Merci à mes autres invités également. Dans un instant, vous retrouverez Punchline avec Laurence Ferrari. Je vous retrouve demain, ici, même heure, 15h30. Au revoir.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.